VOA Afrique, les infos à Washington.
Bonjour à tous, Jean-Roger Billon à ce micro, il est 11h en temps universel. La Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, a accusé des forces de sécurité congolaises et une milice soutenue par l'armée d'avoir planifié des massacres relevant de crimes contre l'humanité, contre une ethnie au Kasaï. Des violences d'une ampleur et d'une gravité sans précédent ont été perpétrées dans cette région entre mars et juillet. On rapportait dans un rapport de 100 pages aujourd'hui, la FIDH, basée à Paris, et ses organisations partenaires en RDC. La FIDH a aussi compilé une liste d'au moins 50 noms de présumés responsables des crimes commis sur le territoire de Kamounia et se réserve le droit de la transmettre à la Cour pénale internationale ou d'autres institutions. Fiasco de l'opposition à RDC qui a reconnu n'avoir pas été capable de mobiliser hier lors des manifestations pour dénoncer le renvoi au 23 décembre 2018 des élections devant mettre fin au pouvoir de Joseph Kabila. Quelle que soit la raison évoquée, c'est une bataille perdue et l'un des ténors de l'opposition, Félix Tshisekedi, l'a simplement admis publiquement. Gabi Dorsil.
C'est en effet dans un entretien vidéo sur Facebook que Félix Tshisekedi, patron du rassemblement de l'opposition en RDC, a avoué que la marche n'a pas pu avoir lieu, ce qu'il a attribué à la pluie et à un manque de coordination. Les autorités, qui avaient interdit la manifestation, avaient pris des mesures sévères pour les réprimer. Selon un porte-parole de la police, plusieurs dizaines de personnes, dont les responsables de l'UDPS, ont été arrêtées dans le centre et le centre-est du pays. Tshisekedi lui-même a été dissuadé de sortir de chez lui pour manifester, toujours selon la police. S'il y a eu un certain ralentissement des activités à Kinshasa, la capitale, ailleurs la situation était différente. Trois jeunes ont été appréhendés à Lubumbashi. La police a empêché la marche à Bukavu ainsi qu'à Goma où le président Kabila assistait à une conférence des gouverneurs provinciaux. Son deuxième et dernier mandat a pris fin il y a un an et l'opposition rejette tout report du scrutin à décembre 2018 alors qu'un accord avait prévu les élections en décembre 2017.
La secrétaire générale du Commonwealth, Patricia Scotland, effectue depuis mardi une visite officielle au Cameroun où elle a appelé à l'unité et au dialogue alors que le pays connaît une grave crise sociopolitique dans ses régions de l'Ouest anglophone. Madame Scotland a rencontré en audience le jour même de son arrivée le président Paul Biya. Au cours de sa visite de 4 jours, Madame Scotland va rencontrer les principaux responsables politiques du pays, de même que des représentants des partis, de la société civile et du monde économique. En Angola, la Sonangol, la compagnie pétrolière nationale, a ouvert une enquête sur de possibles détournements de fonds imputables à son ancienne PDG, Isabelle Dos Santos, la fille de l'ancien président. Eddy Sango pour les détails.
C'est la presse angolaise qui révèle des transferts de fonds faramineux de la compagnie angolaise du pétrole vers des comptes privés. Selon le Novo Journal et le Journal Economico, la nouvelle direction de la Sonangol a identifié un transfert suspect de 57 millions d'euros vers un compte à Dubaï. 10 millions d'euros ont été envoyés, selon ces révélations de la presse, vers une entreprise portugaise qui a Isabelle Dos Santos comme actionnaire principal. La Sonangol a émis des réserves, mais son porte-parole confirme tout de même qu'une commission d'enquête interne est bien mise en place. Le parquet de Luanda dit n'avoir reçu aucune plainte de la Sonangol. Isabelle Dos Santos dénonce une campagne de diffamation. Dans un tweet, elle parle de fausses nouvelles qui ne méritent aucun crédit. Nommée à la tête de la Sonangol par son père en 2016, elle a été remerciée le mois dernier par le nouveau président João Lourenço. Isabelle Dos Santos est considérée par le magazine Forbes comme la femme la plus riche du continent.
VOA Afrique, 19 civils dont 7 enfants ont péri dans des frappes nocturnes dans une localité tenue par les rebelles dans la province d'Idleb dans le nord-ouest de la Syrie. En guerre, a indiqué aujourd'hui l'Observatoire syrien des droits de l'homme, l'OSDH. Parmi les 19 civils tués figurent 7 enfants, 13 des morts sont membres d'une même famille. L'Iran dément fermement les accusations américaines et saoudiennes selon lesquelles il fournirait des armes aux rebelles houthis du Yémen, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, cité aujourd'hui par l'agence iranienne ISNA. L'Arabie saoudite, rivale de l'Iran, a annoncé mardi avoir intercepté au-dessus de Riyad pour la deuxième fois en 2 mois un missile balistique tiré par les rebelles yéménites houthis et a qualifié ce tir d'irano-houthi. Le Sénat américain a finalement voté dans la nuit de mardi à mercredi la réforme fiscale voulue par le président Donald Trump et l'a renvoyée à la Chambre des représentants qui doit l'adopter définitivement dans la journée. Cette réforme qui prévoit 1 500 milliards de dollars de baisse d'impôts sur 10 ans est d'une ampleur sans précédent depuis la réforme du code des impôts adoptée en 1986 sous la présidence républicaine de Ronald Reagan. Elle doit marquer 11 mois après l'investiture de Donald Trump à la Maison-Blanche, le premier succès législatif majeur pour la nouvelle administration. Le Sénat des États-Unis vient d'adopter la plus grande baisse et réforme des impôts, a tweeté Donald Trump, annonçant une conférence de presse à la Maison-Blanche ce soir à 18h GMT en cas d'adoption définitive par la Chambre. Gérard Boucharin a appris qu'il était américain très tard et par erreur. Ce retraité de 68 ans vit en France mais est né à New York. Il n'a passé que quelques semaines aux États-Unis. Sa banque s'est chargée de lui rafraîchir la mémoire en lui demandant qu'il fournisse son numéro fiscal américain. Lorsque vous êtes américain, vous devez payer des impôts sur les revenus, quel que soit le lieu de résidence. C'est un casse-tête pour ces Américains accidentels. Idriss Fall a joint à Paris Fabien Léhagre. Il est président de l'Association des Américains accidentels.
En ayant le malheur de naître sur le sol américain, pour ma part, je suis né il y a maintenant 33 ans en Californie. Et j'ai quitté les États-Unis à l'âge de 18 mois pour la France avec mon père. Et je ne suis retourné aux États-Unis qu'une seule fois à l'âge de 27 ans. Pour retrouver ma mère. Donc je suis un Américain accidentel à cause de la pratique de la citizenship based taxation par les États-Unis où j'aurais dû déclarer mes revenus au fisc américain.
Est-ce que vous êtes nombreux dans ce cas si vous formez une association ?
Alors en France, on est plus de 270 aujourd'hui. L'association a été créée il y a un peu plus de 6 mois. Maintenant en France, il y a beaucoup plus de personnes identifiées. Il y en a un peu plus de 550, mais il y en a encore plus. Hein. Il y en a dans tous les pays du monde. Et les parents, pour différentes raisons, sont partis sur le sol américain pour faire naître leurs enfants et puis sont retournés dans leurs pays respectifs. Donc aujourd'hui, vous avez des Américains accidentels dans le monde entier.
Quels sont les inconvénients d'être Américain en vivant à l'étranger ?
En fait, les États-Unis, en 2010, ont fait voter une loi qui oblige en fait toutes les institutions financières du monde à identifier les US personnes et à transmettre les informations bancaires les concernant au fisc américain. Et le problème, c'est que donc il y a certainement qui, pour des raisons financières, ne veulent pas s'embêter avec des clients de nationalité américaine, refusent d'ouvrir des comptes bancaires pour ces personnes, clôturent des assurances vie et refusent des prêts immobiliers.
Même dans votre association, vous avez le cas d'une personne qui, à 68 ans, découvre qu'il était citoyen américain.
Ben oui, tout à fait, oui. Puisque les États-Unis appliquent le droit du sol. Donc, dès lors que vous naissez sur le sol américain, vous avez de facto la nationalité américaine. Sauf que les États-Unis font reposer leur fiscalité sur la nationalité, qu'ils appellent la citizenship based taxation. Ça veut dire que toute personne, dès lors qu'elle a la nationalité américaine, est tenue de déclarer ses revenus au fisc américain, voire de payer des impôts dans certains cas.
Renoncer à la nationalité, est-ce que c'est facile d'abord ?
Ben non, pour renoncer à la nationalité américaine, ça suppose d'être en conformité avec le fisc américain. Donc en fait, on est tenu de rentrer dans le système fiscal américain, donc de demander un Social Security Number, un numéro d'identification fiscale, de déclarer donc avec l'aide d'avocats, donc là vous allez compter 20 000 euros à peu près, de payer éventuellement des impôts, donc vous vous retrouvez à payer des impôts à deux reprises. Et enfin, pour pouvoir renoncer, il faut être en conformité pendant 5 ans et il faut encore payer à l'ambassade américaine 2 350 $, enfin être débarrassé de cette nationalité américaine.
Vous êtes engagé dans un casse-tête chinois, j'imagine.
En France, à travers l'Association des Américains accidentels, nous avons déposé un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État, au motif que l'accord FATCA, qui oblige les banques à nous identifier, n'est pas appliqué de manière réciproque par les États-Unis. Et le deuxième argument qu'on met en avant, c'est que le transfert de nos informations ne respecte pas le droit européen concernant la protection des données.
Est-ce que vous pensez que le Conseil d'État français peut avoir le pouvoir de faire annuler une décision américaine votée par le Congrès des États-Unis ?
Ça, non, elle n'aura pas la possibilité. En revanche, ce qu'elle a la possibilité, c'est de rendre illégal le transfert d'informations. Donc FATCA continuerait à s'appliquer, mais par contre, donc les banques devraient normalement envoyer des informations, sauf qu'elles n'auraient plus la base juridique en France pour pouvoir respecter cette loi américaine.
Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson et la chef de la diplomatie canadienne Chrystia Freeland ont invité mardi les ministres des Affaires étrangères de pays engagés dans le règlement de la crise sur le nucléaire avec la Corée du Nord à une réunion et ce sera le 16 janvier à Vancouver. L'objectif est de déployer les efforts diplomatiques vers un avenir plus pacifique, prospère et dénucléarisé de la péninsule nord-coréenne. Jean-Roger Dion, le prochain journal, c'est dans ces 4 minutes et ce sera avec Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.